se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement de ce qui est partiel, l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Caritas est amor. La charité, l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour rend service à la manière de Dieu serviteur. Le Dieu des Juifs et des Chrétiens, notre Dieu, s'est révélé comme un Dieu qui descend, qui s'incarne. Et c'est même vrai pour les Juifs. Ils ont de la difficulté à reconnaître Jésus, ils ont de la difficulté à reconnaître l'incarnation. Mais il y a quelque chose chez les Juifs qui devrait les conduire à comprendre l'incarnation. Dans leur histoire et la nôtre, parce que leur histoire c'est la nôtre aussi, il y a cette descension de Dieu. Le mot n'est pas encore dans le dictionnaire, c'est moi qui l'invente. Ça remplace le mot kénose, mais il n'y en a pas chez Walmart, des affaires de même, des kénoses. Les théologiens emploient ce mot-là, le mot kénose, à partir de Philippiens 2, là, lui de condition divine, n'a pas retenu comme une proie à saisir d'être égal de Dieu, mais il se ekénosène en grec, il se vida de lui-même, se dépouilla, il a pris la condition de serviteur, d'esclave. Il s'est dépouillé, il est descendu lui aussi. Mais Exode 3, 7 déjà disait tout ça, et c'est le fondement de notre révélation juive et chrétienne, d'un Dieu qui délivre. Nous avons passé, comme peuple de Dieu, nos ancêtres dans la foi, ont passé 430 ans en Égypte. On n'a pas été esclaves pendant 430 ans. On a été des réfugiés en Égypte. Pendant plus de 400 ans, on a été des réfugiés. Puis on a bien vécu en Égypte, tellement qu'on a fait des petits. On ne fait pas des petits quand on les met au monde pour qu'ils se fassent tuer. Alors, on était bien en Égypte. Puis les Égyptiens étaient contents de notre fromage au lait cru, puis de notre viande d'agneau. Puis ils étaient contents de nos céréales, de nos fruits, de nos légumes. On est devenu un peuple nombreux. On a rempli une des promesses que Dieu avait faites à Abraham. « Je vais faire de vous un grand peuple et je vais vous donner un pays. » Mais là, on n'était pas chez nous en Égypte, on était des réfugiés. J'insiste là-dessus parce que ces années-ci, il y a beaucoup de réfugiés qui cherchent une terre d'asile. Et tous les pays capables de les accueillir, y compris le Canada, y compris le Québec, ferment leurs portes ou les comptent. On veut avoir juste des gens qui vont être utiles pour combler nos besoins. Non, je ne veux pas des gros mots, mais Ça a-tu du bon sens? Mettez-vous à la place d'une femme qui a perdu son mari, là, qui s'est fait tuer son mari, puis qui est prise avec deux enfants, puis qui est dans un camp de réfugiés. Elle ne viendra pas travailler dans des scieries, elle, là. Elle ne conduira pas des camions. On a besoin de chauffeurs de camions, on a besoin d'opérateurs de scieries. Elle ne se qualifiera pas pour le Québec, elle ne viendra pas étudier non plus dans les domaines qui vont être permis par le Québec, là, pour les immigrants. Alors, elle, tu l'oublies, là? Êtes-vous capable de penser au désespoir des enfants qui vivent dans des camps où ils ont à peine de quoi survivre, puis qui n'ont pas d'espérance? Avez-vous pensé comment c'est une manufacture à terroristes, ça? Puis quand ils vont se lâcher l'os à un moment donné, ils pourraient me pogner, moi, qui suis un gentil bosseron, puis ils auraient envie de me dévisser la tête. Puis j'ai jamais été un intervenant violent, je pense pas, là, j'ai pas fait de mal à personne, mais je suis un occidental blanc, j'appartiens à la culture dominante européenne, je suis immigré avec mes ancêtres en terre d'Amérique, je suis même pas un autochtone d'ici, mes ancêtres ont immigré ici. Alors je suis un privilégié, moi, dans le monde. Puis il dit, « Ah, je vais accueillir seulement ceux qui font mon affaire. » C'est à brailler quand vous serez dans le Katimavik, vous pensez à ça. Quelle injustice dans le monde actuellement. Le pape François en parle souvent. 70 millions de demandeurs d'asile. Parce qu'il y a des guerres, des violences, des persécutions. On a tué des personnes, on a détruit des maisons, chassé des gens de territoires qui étaient les leurs depuis des milliers d'années. Puis on n'est pas intervenu. On ne parle pas. Monsieur le Président des États-Unis vient de déclarer que les territoires palestiniens occupés par Israël illégalement, c'est légitime. Qu'est-ce que vous allez faire des Palestiniens déplacés, qui ont perdu leur champ, leur livret, leurs moyens de gagner leur vie, le droit de sortir des villes qui sont emmurées par Israël, ils n'ont pas le droit de sortir de là. Qu'est-ce que vous allez faire des Palestiniens? On y pense même pas. Maudite marde de cochon. Je suis très fâché, là. Voilà notre monde. Dans une situation semblable, quand est arrivé Crackpot, là, c'est le nom que je veux donner au pharaon qui est pas nommé dans l'Ancien Testament, celui qui a eu peur des réfugiés qui étaient dans le delta du Nil, il a eu peur que les réfugiés qui étaient devenus nombreux se révoltent. Alors il les a asservis par des travaux fastidieux. Alors qu'ils travaillaient déjà d'une étoile à l'autre, leur journée était pleine, ils ajoutent des charges. Quand il a vu qu'on fournissait, il en ajoute encore plus. Exode 3, 7. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses angoisses. Et je descends pour délivrer. Notre Dieu à nous s'est fait connaître comme un Dieu qui descend pour délivrer. Puis il n'a pas délivré de façon magique. Padam! Non. Il est passé par un médiateur. Puis il n'a pas examiné une série de curriculum vitae, là. Il a pris le plus incompétent possible, le plus disqualifié possible, Moïse. Un privilégié qui n'a pas été noyé quand les autres garçons étaient noyés. Parce que sa mère, Jochébède, n'est pas nommée dans le texte de l'Exode. Il faut chercher beaucoup pour savoir son nom. C'est une femme, c'est normal. Alors que c'est le triomphe d'une femme. L'Exode, c'est une job de femme. Ça paraît pas, hein? Mais c'est Jochébède qui dit « Moi, je ne tue pas mon garçon ». C'est Jochébède qui dit, bon, ben là, ça grandit, un gars, ça crie, ça, puis la police pourra bien vérifier que c'est pas une fille. Ça. Les filles, on les gardait, les Égyptiens avaient le crackpot avait permis qu'on garde les filles parce que ça peut servir. Les filles, les Égyptiens vont les marier puis vont mettre au monde des Égyptiens. Ça peut servir une fille, mais si tu veux faire avec un gars, hein, ça peut juste grandir puis se développer puis faire des muscles puis dire, moi, quand ça a gueule aux Égyptiens, alors, pour pas qu'ils se révoltent, là, il va y avoir juste des filles. Ça va être plus facile à mener. Alors, la mère de Moïse, Jochébed, a dit, moi, je ne vais pas noyer mon gars. Le pharaon, il a dit de les jeter au fleuve. Il n'a pas dit comment. Alors, une job de femme. Elle dit, je vais le jeter au fleuve, je vais obéir au pharaon. Mais je vais le mettre dans un panier, plein de coltards, puis il va flotter. Je vais le jeter au fleuve pareil, je vais avoir obéi. Puis je vais le jeter au fleuve d'une manière contrôlée. Je vais envoyer la sœur de Moïse, Myriam. Je vais l'envoyer dans une quenouille avec le panier. Ah. Jochébed, Myriam. Puis on va faire intervenir une troisième femme, Madame la princesse. La princesse va aller se baigner. Alors, Myriam, qui est dans une quenouille, attend que la princesse vienne se baigner puis qu'elle aille de l'eau jusqu'au sein. Puis là, elle fait glisser le panier avec le bébé sous le nez de la princesse. Ah, ça tombe bien, la princesse a le goût de l'adoption internationale. Un bébé! Alors, elle adopte le bébé, Madame Trois, Jochébed, Myriam, la princesse. Puis là, la sœur de Moïse sort des quenouilles pour dire à la princesse, tu veux bien l'adopter, c'est correct, mais t'es pas capable d'allaiter ce bébé-là, de toute façon, ça te déformerait. Alors, je connais une bonne nourrice pour le bébé. Fait que Myriam va chercher la mère de Moïse, elle va être payée pour nourrir son bébé, payée par le pharaon qui avait dit, vous tuez les gars. Payé par le pharaon pour nourrir son propre bébé, garçon, dans le palais du pharaon, puis il va être élevé comme un prince d'Égypte. Pas un coup de poing, pas une révolte, une job de femme. Elle est en train de désobéir au pharaon, puis de mettre au monde celui qui deviendra le libérateur d'Israël. Une job de femme. Heureusement qu'il y a eu la lecture féministe qui nous a juste fait lire le vieux texte qui est toujours là, là. On vient pas de commencer. C'est la lecture féministe de la Bible qui nous a amené à voir ça. Jochébed, Myriam, la princesse, le palais royal. Ah ben. Mais la mère de Moïse était capable de l'allaiter puis de l'élever en lui disant, souviens-toi que t'es un Hébreu. Puis devenu grand, il va visiter les chantiers du pharaon. Puis il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, se souvient de ce que sa mère avait dit. C'est déjà fini? Non. Non, c'est un serviteur du pharaon qui recule. Alors, je retrouve mon idée. Moïse va visiter les chantiers, puis il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Il va pour le défendre. Il se souvient de ce que sa mère lui a dit, « Souviens-toi que tu es un Hébreu. » Mais il le défend tellement bien que l'Égyptien tombe à la renverse, puis il se casse le coco, le jaune est cassé, puis il meurt. Alors, le lendemain, il revient sur le chantier, puis il s'aperçoit que tout le monde est au courant de son meurtre. Meurtrier, fugitif, il s'en va dans le désert. Il a peur du pharaon parce qu'il a tué un Égyptien. Il se marie dans le désert, il a des enfants, puis c'est là que Dieu le rencontre, puis qu'il lui dit la phrase que je viens de vous citer, Exode 3, 7. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses angoisses. Et je t'envoie, toi, pour faire sortir mon peuple. C'est toi qui es mon médiateur. Moïse dit, oh, t'as pas pris le bon gars. Hein, t'as pas lu mon curriculum vitae, hein? Je suis pas le gars pour ça. Et Dieu lui répond sèchement, vous connaissez la réponse de Dieu? Je serai avec toi. Ah bon? Tu ne discutes plus? Je serai avec toi. Et Moïse va aller trouver le pharaon, dont il y aurait toutes les raisons de redouter la colère. va aller retrouver le pharaon. Il est disqualifié auprès de lui. Il va aller voir le peuple pour dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vous dire que vous allez sortir d'Égypte, de cet esclavage où vous êtes. Fait que les gens du peuple hébreu sont capables de dire à Moïse, t'as un tiki, toi? Tu sors d'où? Tu as été sauvé de la mort quand les autres garçons de ton âge ont été tués? Tu as été élevé au palais du pharaon? Tu sors d'où? T'as un tiki, toi? Disqualifié auprès de son peuple, c'est lui que Dieu choisit. Ça a l'air de rien, mais ça me rassure beaucoup, ce petit texte-là. Dieu passe par des médiateurs et des médiatrices incompétents. Ben, me v'là. Puis te v'là aussi. Nous sommes là comme des médiateurs et des médiatrices incompétents pour faire le travail de Dieu. Puis on pourrait dire, oh non, non, pas moi, pas moi. Et Dieu va vous dire à vous aussi, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je t'envoie. Va, je t'envoie. Je serai avec toi. Et Moïse va faire sortir le peuple d'Égypte après s'être fait rouler dans la farine 10 fois par le pharaon. Vous allez me dire la dernière fois, il ne s'est pas fait rouler dans la farine. Non, regardez bien. La dernière fois, le pharaon est très affecté parce que son fils est mort. Puis il dit à Moïse, je ne veux plus te voir la face. Alors Moïse dit, comme ça je peux partir. Comme ça on peut partir. Nous pouvons partir. C'est pas ça que le pharaon avait dit. Parce que lorsque le pharaon apprend qu'on est en train de partir, oh! Là il part avec ses chars, ses cavaliers pour nous rattraper. On va chanter ça à Pâques, là, on va passer Noël avant, mais à Pâques, on va chanter ça. Cheval et cavalier, il les jette à la mer. Ils sautent aux jettes à la mer. C'est pas nous autres, c'est pas Dieu qui les a jetés. Dans leur puissance, ils pensent nous attraper avec des chars, des cavaliers. Impuissance contre Dieu. Ils se lancent dans la mer, mais comme les sidoux, t'as pas inventé. Les chars tombent à la renverse, les cavaliers avec leur armure tombent à l'eau, puis ils se noient. C'est le pouvoir qui va jusqu'au bout, puis finit par s'autodétruire. Si vous regardez l'histoire du monde, presque tous les dictateurs, tous les abuseurs finissent par des excès de force où ils se détruisent. Ils mettent fin eux-mêmes à leur pouvoir par un abus de pouvoir, par un abus de bêtise. Le peuple finit par dire, tue-nous si tu veux, là, on veut plus de toi. Tu peux toujours nous tuer si tu veux. Puis il y en a des dictateurs comme ça dans le monde, j'en nommerai pas. Je vous les laisse énumérer vous autres mêmes. Des abuseurs, tu ne respectes pas la Constitution, tu ne respectes pas les lois, tu ne respectes pas les attentes de la population. C'est toi qui mènes, tu te prends pour Dieu le droit de vie ou de mort sur les citoyens. Ça finit toujours dans des catastrophes. Et des catastrophes qui provoquent eux-mêmes. L'envers de l'amour. L'envers de tout ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 13. Je vous ai parlé de l'Ancien Testament. Notre Ancien Testament. L'histoire du peuple de Dieu dès sa fondation. Et cette sortie d'Égypte, non seulement des Hébreux, mais de tous les autres peuples qui étaient là, qui ont accepté la parole du prophète Moïse, parce qu'il y a des étrangers qui ont vu ce que les Hébreux faisaient en obéissant à Moïse. Moïse leur a dit, si vous voulez sortir d'Égypte sous la conduite de Dieu cette nuit, préparez-vous, immolez un agneau, mettez du sang de l'agneau sur les portes de vos maisons, habillez-vous pour partir en voyage, des sandales aux pieds, le baluchon tout près, vous allez manger l'agneau tout ensemble, puis il ne restera rien de l'agneau, vous le mangez au complet, puis là, après ça, on va partir. Il y a des étrangers qui nous ont vu faire ça. « Hey, faites-le, vous autres! » C'est notre prophète, lui, c'est une espèce de parlant, là. Mais le message qu'il porte, par exemple, nous pensons que c'est vraiment notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous fait sortir de l'esclavage. Est-ce qu'on peut aller avec vous autres? Oui. si vous acceptez de devenir comme nous autres, puis d'obéir à la parole du prophète. De sorte que c'est un ramassis de peuples, et que j'aime ce mot-là, c'est un ramassis de peuples qui est sorti d'Égypte. J'aime bien ça. Un ramassis de peuples. Pas juste la pureté raciale d'Abraham. Il y a des peuples qui étaient d'Afrique du Nord, puis du Proche-Orient, qui sont sortis avec nous autres, qui ont formé le peuple de Dieu une fois sorti d'Égypte. C'est ce peuple-là à qui Dieu va proposer une relation d'alliance, une fois sorti d'Égypte. Vous avez vu comment je vous ai fait sortir facilement d'Égypte? Sur des ailes d'aigle, dit Dieu. Vous n'avez pas eu à combattre, il n'y a pas eu de terrorisme, il n'y a pas eu de bataille. Même quand les Égyptiens ont voulu nous faire la guerre, trop tard, on était sortis. On était déjà sortis. Pas eu à se battre. Je vous ai fait sortir facilement des gens. Moi, je veux vivre avec vous. Est-ce que vous voulez vivre avec moi? Si vous voulez vivre avec moi, voulez-vous respecter mes lois, mes orientations? Si vous voulez vivre avec moi, respecter mes lois, mes orientations, voulez-vous faire un pacte avec moi, un pacte d'alliance? Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous votre Dieu, puis vous serez mon peuple. Voulez-vous accepter ça? Nos ancêtres ont répondu oui trois fois. Oui, on veut vivre avec toi. Oui, on va observer ta loi. Oui, on va faire alliance avec toi. Oui. Et Dieu dit en retour, moi je ne veux pas de cérémonie, de culte. Le culte que j'attends de vous, c'est que vous soyez comme moi. Vous allez me ressembler. Vous allez être des délivreurs, vous autres aussi, partout dans le monde où vous allez aller, vous allez délivrer les gens de tout esclavage. Vous allez défaire les nœuds, arracher les chaînes injustes. Vous allez me ressembler. Vous allez partout chercher la justice, le respect des droits, la vérité, la paix, la réconciliation, l'amour, partout où vous allez aller. C'est comme ça qu'on va vous reconnaître comme mes enfants, mes héritiers, mes partenaires, mes collaborateurs. Après ça, si vous voulez me faire des cérémonies d'action de grâce, vous le ferez si ça vous fait plaisir, mais j'en attends pas. Ce que j'attends de vous autres, par exemple, c'est que vous vous consacriez à moi. Ça, j'attends ça. C'est que vous acceptiez de penser comme moi, de parler comme moi, d'agir comme moi. Moi, je vous ai délivré de l'esclavage. Vous allez être vous autres aussi des délivreurs. Puis quand tu seras installé dans ton pays, là, qu'il y aura un étranger qui va passer chez toi, tu vas apprendre à respecter l'étranger. Souviens-toi que toi aussi, tu as été un étranger en Égypte. Hey, ça c'est fort. Toi aussi, tu as été un étranger en Égypte. Je pense à ça quand je regarde l'histoire de la Nouvelle-France du Québec. Là. C'est le seul endroit au monde où des Européens sont venus s'établir avec la permission des Autochtones et le soutien des Autochtones. On dirait qu'on ne sait pas ça puis qu'on veut l'oublier. Si on le savait, on veut l'oublier. C'est le seul endroit au monde où les Amérindiens du Saint-Laurent avaient fait une alliance, on appelle ça la Grande Alliance, avec Champlain en 1603, avant que Champlain vienne vivre ici avec les premiers colons. Et les Amérindiens étaient nos alliés, puis ils l'ont été jusqu'en 1763, jusqu'à ce que la Nouvelle-France soit cédée à l'Angleterre. Là, les Anglais sont organisés pour que les Autochtones soient séparés de nous. Mais jusqu'en 1763, les Amérindiens du Saint-Laurent étaient avec nous. Puis ils nous ont aidés à passer l'hiver, à survivre à l'hiver. Et ils nous ont appris à vivre ici. Ils nous ont appris les plantes qu'il y avait ici. Vous irez voir le monastère des Augustines. Vous allez voir comment les Augustines se sont intéressés à la pharmacie des Amérindiens, comment les Amérindiens se soignaient. Puis les Amérindiens nous ont partagé leurs secrets. Puis même, ils l'avaient fait avec Jacques Cartier, qui, avec ses troupes, il mourait du scorbut. Nous autres, on ne meurt pas du scorbut, on s'en soigne. le cerf de notre tuyau là, faisait des décoctions avec ça, puis il y avait des vitamines pour résister à l'hiver, à défaut d'avoir des pommes puis des oranges. Il y avait du cèdre. Ils faisaient des décoctions avec le cèdre. Ils ont délivré une recette d'Amérindien. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est marqué dans notre ADN. Souviens-toi que toi aussi, tu as été un étranger en Égypte. J'aimerais ça rappeler ça aux dirigeants de l'Europe, de l'Amérique, du Canada puis du Québec. Souviens-toi que toi aussi, tu as été un étranger déjà. Et que je t'ai secouru quand tu étais un étranger. Et tu sais ce que c'est que d'être étranger, puis d'être opprimé, d'être oppressé. Tu t'en souviens dans ton histoire. Je me souviens. Oh, je trouvais ça quelque part, cette phrase-là, je trouve que c'est déjà. Je me souviens. Moi aussi, j'étais esclave en Égypte. Alors, s'il y en a qui sont esclaves aujourd'hui, je suis capable de m'en souvenir. Puis je suis capable de sentir ce qu'ils sentent. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses angoisses. Et je descends pour délivrer. On peut-tu faire une pause là-dessus? Puis ceux qui sont capables de se lever, là, vous pouvez vous lever, ça va éviter de faire des plats de siège. L'amour prend patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour en service. En service à la manière du Dieu serviteur. J'ai vu, j'ai entendu, je connais et je descends pour délivrer. À Foi et Partage, vous apprenez à voir, à entendre, à comprendre, puis à descendre pour délivrer, à descendre de votre grandeur, de votre complète autonomie, de votre confort, pour être avec et délivrer. Et vous le faites à la manière surtout de Jésus, parce que vous connaissez Jésus. Et vous connaissez Jésus qui rencontre des gens qui ne sont pas juifs, ou des juifs qui ne sont pas selon l'alliance avec Dieu. Même des très pieux, comme les scribes et les pharisiens, que tout le monde pense être le modèle parfait du juif, Jésus leur dit, « Hey, il vous manque l'essentiel, la relation avec Dieu. Pensez comme votre père, parlez comme votre père, agir comme votre père. Vous performez, vous êtes impeccable. C'est pas ça que Dieu attend de vous. » Il attend que vous soyez comme lui. Ressemblez donc à votre père. Ça, c'est pour les pieux. les meilleurs. Saint Paul en est un de ceux-là. Puis il va se vanter. Puis il va dire, quant à la justice que peut donner la pratique de la loi, j'étais un homme irréprochable. Comme pétage de bretelles, on ne peut pas trouver mieux que ça. J'étais un homme irréprochable. Mais tout ça, j'ai considéré ça comme des balayures à côté de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le Christ, alors que Paul, qui était au Sanhédrin, connaissait tous les dossiers des espions qu'on avait envoyés à Jésus pendant sa vie publique? On les voit dans l'Évangile des fois. Il y a des envoyés qu'on envoyait tendre des pièges à Jésus. Ces gens-là faisaient des rapports après. Puis Paul connaissait les rapports. Jésus est un imposteur. C'est un rabbin qui n'a pas étudié dans nos écoles rabbiniques. Hein? Mais tout d'un coup, il est rabbin, là. Il est un maître qui enseigne. Mais il n'est pas passé dans les écoles pour être certifié. Là. Il n'a pas son certificat d'enseignement, puis il enseigne. Puis il égare le peuple. Les gens le trouvent fin, ils trouvent que lui a une parole d'autorité. C'est épouvantable le mal qu'il fait. Alors saint Paul avait lu toutes des affaires négatives sur Jésus. C'est pour ça que quand, une fois que Jésus était mort, au Sanhédrin, on a dit « bon débarras ». Mais là, quand la gang continue encore après, puis ils disent qu'il est ressuscité, oh ben là, Paul... Il prend l'initiative, « Donnez-moi des lettres pour me déléguer, pour que j'aille ramasser ces délinquants-là, pour qu'on en finisse avec la secte de Jésus, persécuteur de chrétiens. » Il va même dire, « Quant au zèle que j'avais pour Dieu, j'étais un persécuteur de chrétiens. » Puis il ne demande même pas pardon. M. Trudeau aurait demandé pardon, puis aurait versé une larme au moins. Mais lui, non, pas de larmes, pas en tout. J'avais du zèle pour Dieu. Mais c'était un zèle mal éclairé. Le jour où j'ai connu le Christ, j'ai considéré ça comme des balayures. Saint Paul approuvait le meurtre d'Étienne. C'est au pied de Paul qu'on avait mis les vêtements d'Étienne quand on l'a lapidé. Il avait approuvé ce meurtre-là. Il était là. Il aurait pu sauver Étienne de la mort. Le Sanhédrin aurait pu sauver Jésus de la mort. Ben non, c'est eux autres qui l'ont livré à Pilate. Pilate aurait pu sauver Jésus, mais non, il a subi la pression, il a manqué au droit romain. Encore aujourd'hui, nous pouvons aider du monde, mais j'aime autant pas les voir, j'aime autant les ignorer. Je ne descends pas de ma grandeur, de ma tranquillité, de mon confort. Je reste dans mon confort et mon indifférence. Je ne vois pas, je n'entends pas, je comprends pas, je veux rien savoir. Je veux pas le voir, je veux pas le savoir. Quand il arrive les nouvelles, je ferme la télé. Je veux pas savoir qu'il y a du mal dans le monde, qu'il y a des gens avec des problèmes climatiques, je veux pas savoir. Qu'il y a de la guerre dans le monde, je veux pas savoir. Qu'il y a des problèmes économiques dans le monde ailleurs, je veux pas savoir. Qu'il y a des gens qui crèvent de faim, je veux pas savoir. Parce que si je le sais, ça va me déranger. Il ne faut pas bien dormir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde, puis on se demande comment ça se fait qu'on est indifférent de même, qu'on ne réagit pas quand on apprend qu'on a déplacé les Kurdes du territoire qui occupe depuis des milliers d'années. On a laissé la Turquie chasser les Kurdes du territoire qui est à eux autres depuis toujours, en Syrie. Parce que le Kurdistan, on n'a pas eu le temps de le mettre au monde. L'Angleterre avait dit qu'on ferait un Kurdistan, mais on ne l'a pas mis au monde. Il y a des Kurdes en Syrie, il y en a en Irak, il y en a en Iran, il y en a en Turquie, mais ils ne sont jamais chez eux, ils sont ailleurs. Puis les Turcs ont une théorie qu'ils apprennent à l'école. Il n'y a que des Turcs en Turquie. C'est-tu clair, ça? Il n'y a que des Turcs en Turquie. Alors, si vous êtes Arménien, pas d'affaires en Turquie. Si vous êtes des Kurdes, pas d'affaires en Turquie. Si vous êtes grec, pas d'affaires en Turquie. Ça va faire 100 ans là, qu'on a chassé 3 millions de Grecs de la Turquie. On les a envoyés vivre en Macédoine avec leurs baluchons. Ça fait 100 ans, mais comme c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, On était assez préoccupés des ruines de l'Europe. Le monde n'a pas réagi. On a laissé faire ça. La Grèce moderne, si vous allez en Grèce, en tourisme, c'est un pays jeune qui a à peine 100 ans. Même si ça a des milliers d'années d'histoire. Mais le pays institution grecque d'aujourd'hui, la Grèce d'aujourd'hui, c'est encore un jeune pays. On ne comprend pas ça si on n'est pas au courant de cette intimité-là. Le grave problème qu'ils ont eu, la Turquie d'aujourd'hui, c'est la Grèce d'autrefois. C'est Byzance, la capitale de l'Empire romain, pris par les Turcs, musulmans, devenus musulmans, et qui ont persécuté les chrétiens. Les chrétiens grecs, les chrétiens arméniens, qui ont persécuté les Kurdes. Il n'y a que des Turcs en Turquie. Si vous êtes arménien, puis vous n'êtes pas turc, vous ne vivez pas comme les Turcs, vous n'avez pas d'affaires à vivre. Si vous êtes kurde, si vous êtes grec, vous n'avez pas d'affaires là. La loi 21 n'est peut-être pas parfaite, mais il y a pire que ça dans le monde, d'après ce qu'on peut voir. L'indifférence, le confort, ça nous empêche de rendre service avec l'amour comme Jésus l'a fait. Qu'est-ce qui fait Jésus dans l'Évangile? Il voit, il entend, il s'approche, il comprend. Prenez l'handicapé à la piscine de Siloé. Il est paralysé. Il y a une dévotion populaire, là. Quand il change l'eau de la piscine, il y a un bouillonnement d'eau. Mais là, on dit le premier qui se jette dans la piscine, une fois que l'eau a été changée, que ça a bouillonné, là, il est guéri. Mais moi, je suis paralysé, là, puis il n'y a pas personne pour me jeter dans la piscine. Jésus aurait pu me jeter dans la piscine. Non. Jésus écoute, il voit, il s'approche, il le fait parler. C'est quoi ton besoin? C'est quoi ton problème? J'ai personne. Ben, là, t'as quelqu'un. Il y a quelqu'un avec toi. Puis pas quelqu'un pour te jeter dans la piscine, quelqu'un pour te délivrer de ta paralysie. Lève-toi, prends ton grabat et va-t'en. Il le guérit. Et c'est l'IRDPQ de Jérusalem. Il l'a réhabilité. Mais ce n'était pas le bon jour, c'était comme un samedi. Un samedi, il ne faut pas que tu guérisses à l'IRDPQ, voyons donc. Les bureaux sont fermés, les thérapeutes ne sont pas là. Alors, le gars qui se promène avec son grabat, là, waouh, ça, c'est le sabbat, il n'est pas permis de porter ton grabat. Mais celui qui m'a guéri m'a dit de porter mon grabat. C'est qui ça? Je ne sais pas. C'est plus tard qu'il va apprendre le nom de Jésus. Parce que Jésus croise le guéri dans le temple, sur l'esplanade du temple. Puis le gars, il dit, « Hey, c'est quoi ton nom? » Jésus. Vite, il va dire ça aux Juifs. « Hey, celui qui m'a guéri, il s'appelle Jésus. » Fait que là, le maudit, on va le pogner. Ils veulent le tuer parce qu'il a guéri un paralysé. Jésus voit, entend, comprend et délivre. Il n'a pas guéri de même tous les handicapés et tous les estropiés d'Israël. Quand il a guéri, c'était comme des signes d'un Dieu qui a vu, qui entend, qui comprend et qui délivre par tout ce qu'il fait. Ce qu'il enseignait, ça délivre. Les guérisons, c'est des signes de l'autorité de sa parole. Et beaucoup de gens n'ont pas eu besoin des miracles. Quand il parle, lui, c'est une parole d'autorité. Il n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Eux autres, ils citent des auteurs qui ont étudié. Rabbi, un tel dit ça, Rabbi, un autre dit ça, puis bon, ben, Jésus dit, moi, je vous dis. Ce que Jésus dit, ça les rejoint. On dit, quand lui, il parle, là, on dirait que c'est ça qu'on attendait. Ça nous rejoint, là. Lui, il pogne, il a de l'autorité. On lui donne du pouvoir sur nous. Il n'y en a pas de pouvoir, lui. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir politique, il n'y a pas de pouvoir religieux. Un Jésus sans pouvoir religieux. Dieu parmi nous sans pouvoir. Eh, il ne peut pas imposer quoi que ce soit. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois? Vois, ta foi te sauver. Que veux-tu que je fasse pour toi? Des fois, il y en a peut-être parmi vous qui sont handicapés, là, puis on leur demande pas si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous. On le fait avant que vous l'ayez demandé. C'est peut-être pas pantoute ce que vous vouliez. Là. J'ai un confrère de classe qui a paralysé de la polio là, quand j'étais au collège, il y a une soixantaine d'années maintenant. Puis mon papa, qui est un bon gars, un très, 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 très bon gars, là, quand cet handicapé-là venait chez mes parents, il est en chaise roulante parce qu'il est paralysé à partir de la taille, il ne marche pas. Mon père prenait le contrôle de la chaise puis il te le renait. Mais alors que moi, je faisais exprès pour le laisser gagner toute son autonomie, il m'avait appris que c'est comme ça qu'il aimait que ça fonctionne. Parce que des fois, il forçait là, pour monter une petite côte. Je le laissais forcer. Ça développait ses muscles, les épaules au moins, il les avait. Puis il y avait une chaise roulante. Mais quand il venait chez nous, je voyais mon père qui le prenait. Je le regardais, puis on souriait. Il n'y avait rien qu'à se laisser mener. Puis il allait où mon père avait décidé qu'il conduirait. Il avait un bon moteur, mon père. Il te le renait comme faut. Je disais, Jésus, pour fonctionner de même, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je te conduise? Des fois, tu prends un aveugle, tu le fais traverser la rue, il vient juste de traverser du bon bord. Là, tu le ramènes l'autre bord. Ah, tu as rendu service. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut demander ça avant de le traverser. Jésus voit, entend, comprend et délivre. On ne peut pas toujours guérir, mais on est dans une relation de service qui améliore la vie. Tout à l'heure, avant qu'on commence notre rencontre officiellement, je parlais avec un confrère là, d'une manie que j'ai développée quand je suis rentré à l'université comme professeur. Le recteur nous a reçus les nouveaux professeurs de cette année-là. J'étais le seul en théologie. Les autres étaient majoritairement en sciences. Puis il y en a qui étaient choqués de voir que j'étais un professeur de théologie. On engage encore des professeurs de théologie à l'Université Laval. J'avoue que ça m'avait pincé la pointe du cœur. Par après, j'ai surveillé la carrière de certains de ces collègues-là, en sciences. Ceux qui disaient qu'ils étaient athées, là, puis étaient bien délivrés de la religion, eux autres, là. Puis qui espéraient que l'université se débarrasse de la religion et de la théologie. Alors, l'université, c'est sérieux, ça. Alors, tu fais de la science, pas de la théologie, de la poésie, des idées comme ça sur la religion, là. Ils étaient bien délivrés de ça, eux autres. Bon. Mais je découvre que parmi ces collègues-là, là, ils cherchaient comment utiliser le cerveau pour faire fonctionner des prothèses. Pour qu'avec un bras artificiel, on soit capable de prendre un verre puis de l'amener à boire. On était capable de faire deux jambes à partir des genoux pour monter un escalier, puis même faire du jogging. Vous avez vu un athlète d'Afrique du Sud qui avait deux lames à la place des jambes, puis qui voulait participer aux Olympiques. Il courait avec deux lames à la place des jambes à partir du genou. Puis il performait. Il dit, le gars qui est en science, qui se dit, ça n'a pas de bon sens que quelqu'un qui a perdu ses deux jambes reste handicapé pour le restant de ses jours. Je vais y redonner des jambes. Ceux qui ont fait des recherches pour les yeux, là, c'est pareil. Comment tu fais pour réparer des yeux qui ne voient pas? Comment tu fais pour faire voir des aveugles? Il y en a qui font des recherches là, pour voir s'il n'y aurait pas moyen de faire voir autrement. Puis ça progresse, la recherche. Faire entendre des sourds, l'implant cochléaire, tout ce qu'on a inventé, là. Tous ces savants-là, là, qui se disent incroyants, ils vont avoir Matthieu 25 dans leur vie un bon jour, parce qu'ils vont mourir. Puis même les incroyants, quand ils meurent, ils rencontrent Dieu face à face. Comme Simone de Beauvoir, qui était très athée. Ben alors, Simone de Beauvoir, athée, qui a lutté contre la religion, surtout contre les curés, quand elle meurt, elle rencontre Dieu face à face, elle aussi. C'est dur pour un athée de rencontrer Dieu face à face. T'existes. Tu vois la place, ça. Un athée qui a fait profession d'athéiste toute sa vie, tout d'un coup, il est là tout nu devant Dieu. T'existes. Tu ressembles pas pantoute parce que les curés disent de toi en bas. Rencontre Dieu face à face. Puis là, ils se font dire, j'avais pas de jambes, puis tu m'as donné des jambes. J'avais perdu mes dents, tu m'as inventé des dentiers. Je voyais plus clair, tu m'as fait des lunettes. Tu m'as fait une opération de cataracte. Je voyais plus clair, puis tu m'as donné moyen d'apprendre à développer ma vision. J'étais sourd, tu m'as donné des oreilles. Mon cœur était faible, tu m'as redonné un nouveau cœur, tu m'as greffé un cœur, ou tu as réparé mes valves, tu m'as débouché mes artères. Tu as fait ça pour moi. Quand est-ce que je fais ça pour toi? Je ne t'ai jamais vu, je ne te connaissais pas. À chaque fois que tu l'as fait à l'un de tes petits, qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que tu l'as fait. Ah! C'est dans la Bible. Matthieu 25, 31. À chaque fois que tu l'as fait, là, c'est de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Tu as fait ça pour moi. Rentre dans le royaume préparé pour toi depuis avant la création du monde. Avec Simone de Beauvoir, Sainte Simone de Beauvoir, qui haïssait les curés. Pour ça, il ne faudrait pas la canoniser, là. Mais pourquoi elle haïssait les curés? Parce qu'elle pensait que les curés, ça enseignait l'Évangile d'une manière qui empêchait les gens de se prendre en main puis d'aller au bout d'eux-mêmes, et spécialement les femmes. Puis Simone de Beauvoir a pensé que partout dans le monde, pas juste les chrétiens, partout dans le monde, dans toutes les cultures et toutes les religions, les femmes étaient considérées comme inférieures. Elle a écrit le deuxième sexe, puis c'est le début de la grande révolution féministe. Sainte Simone de Beauvoir, Dieu lui dit, j'étais une femme qui t'a pris ma défense. Tu as fait la promotion de l'autonomie, de la liberté des femmes, de la dignité des femmes. Quand est-ce que je t'ai vue? Tu n'as jamais été une femme? Chaque fois que tu l'as fait à l'une de ces petites qui sont mes filles, c'est à moi que tu l'as fait. Matthieu 25. Simone de Beauvoir, athée, militante, anti-curée, elle a fait la volonté de Dieu plus que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. À son insu, je ne pensais pas que la délivrance des femmes faisait partie du plan de Dieu. Elle ne connaissait pas ça. Mais avant de conclure, on va encore une fois chanter un couplet de cet hymne de Saint Paul qui a été mis en musique par Denis Veilleux. Si je n'ai pas l'amour,
je n'ai pas l'amour. Thank you.
Alors, l'amour en service à la manière de Dieu. Et quel est le service premier que l'on peut rendre? Voir, entendre, comprendre et intervenir en se faisant proche. Intervenir parce qu'on est marqué par l'amour. Et l'amour, c'est toute la révélation depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse et jusqu'à aujourd'hui. L'amour de Dieu qui nous est révélé, c'est que Dieu nous a voulu. Il y a l'hymne aux Éphésiens qui répète ça. Lui, béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. En lui, avant la création du monde, il nous a élus. Ça veut dire que Dieu, avant de créer le monde, voulait que tu existes. Il nous a choisis, voulus, désirés. Désirés pour être avec lui dans l'amour pour toujours. Pas juste après la mort, déjà aujourd'hui, être avec lui, déterminant d'avance que nous serions pour lui des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dieu t'a désiré. Il veut que tu existes. Il veut que tu sois heureux avec lui. Tu es fait pour vivre avec Dieu, déjà aujourd'hui et pour l'éternité. Il t'a désiré. Le premier mot de l'amour, c'est « je veux que tu existes ». Je veux que tu sois toi. Je veux que tu ne sois pas Dieu. Dieu veut ça de toi et de moi. Il ne veut pas qu'on soit des dieux, il veut qu'on soit d'autres que lui. Dieu a voulu de l'autre que lui. Puis qu'on ne soit pas forcé d'être à lui. Mais on est bien quand on est avec lui. Quand on est mal, quand on n'est pas avec lui. Mais on n'est pas forcé. Il va même dire dans le Deutéronome au chapitre 30, « Il y a devant toi la vie ou la mort. Choisis donc la vie. » Mais je peux choisir la mort parce que Dieu a voulu que je sois autonome et libre. Et je peux prendre mon autonomie puis ma liberté puis dire à Dieu, « Non, là j'ai quelque chose ce soir de 5 à 7, là, j'ai mon bonheur parfait. J'ai rencontré une fille là, qui va me combler parfaitement. » Alors, tu peux prendre congé à soir, Seigneur. Tu auras ton 5 à 7 à toi aussi. Tu iras goûter un nouveau gin québécois là, fait avec des patates, des épluchures de patates. Va goûter des alcools québécois, tu vas être bien avec ça. Mais moi, pendant ce temps-là, je vais faire mon bonheur avec une fille que j'ai rencontrée. Là. J'ai pas besoin de toi. On peut dire ça à Dieu, avec notre autonomie et notre liberté. Mais on ne sera pas heureux tant qu'on ne sera pas avec lui. Mais c'est libre. Et quand j'aime quelqu'un, ça veut dire que je veux que cette personne existe parfaitement, comme elle-même. Pas moi. Tu es toi, puis c'est bien que tu sois toi. Tu ne me ressembles pas, tu n'es pas comme moi, puis c'est parfait. Il n'y a pas deux personnes pareilles, on a beau être des milliards sur la Terre. On est différents. Et je veux que tu sois toi. Complètement toi. Même si t'es ma femme, si je t'ai marié, là, faudrait pas que je sculpte ma femme pour qu'elle devienne un clone de moi, hein, une copie de mon moi-même. On a corrigé maman dans nous autres les enfants chez nous. Maman se présentait pas comme Rose Blanche Poulet. Elle disait, je suis Madame Gérard Côté. Mais ça, ça n'a pas de bon sens. T'es Rose Blanche. Non, était disparue la Rose Blanche. J'étais la femme à Gérard. Je suis Madame Gérard Côté. Ben là, quand on a voulu dire, maman, dis ton nom, ben, on ne se corrigeait pas. Fait qu'on a dit, vous ne connaissez pas Monsieur Rose Blanche Poulet? On présentait notre père parce que vous n'avez pas rencontré Monsieur Rose Blanche Poulet. Tiens, ça marchait pas sur ce bord-là. Ah bon?
une aliénation de ce bord-là. Là. Oh, non, non, ça n'avait pas de bon sens, ça, Mme Rose-Blanche. Ah bon, tiens, tiens, tiens. Mais ma mère, une fois mariée, renonçait à ses amis, ses relations à elle, ses loisirs à elle, tout au service de papa et de la famille. Elle disparaissait. Disparue dans le mariage. Ben, Dieu ne veut pas ça. Si j'aime ma femme, je veux qu'elle soit elle-même, pas un clone de moi. Quoi que tu sois toi, complètement toi. C'est le service que je veux te rendre. Le meilleur service, que tu sois toi. Autonome et libre. J'espère que tu vas choisir librement et de façon autonome d'être avec moi, mais je veux que tu sois libre. Autonome, libre, fière. Pas orgueilleuse, mais consciente de ta dignité. Même handicapée, tu as une dignité inaliénable. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un être humain. Et c'est précieux. Et je veux reconnaître que ça, c'est précieux. Puis tu as le droit à ta dignité, tu as le droit à être respecté. Même si tu es infirme, si tu as un handicap, tu as le droit d'être respecté. Puis si, parce que ton épouse qui te nourrit depuis 10 ans est opérée, puis est obligée de rester à l'hôpital pendant le temps de l'opération, puis qu'on te met en pension dans un hôpital, puis qu'on dit à l'hôpital, il a besoin d'aide pour manger, puis il faut donner des petites bouchées, puis l'assister pour être sûr qu'il ne s'étouffe pas avec, là. Ma mère fait ça depuis 9 ans, puis c'est très, très, très important, là. C'est pour ça qu'on vous le confie, là. Si on y apporte son déjeuner, puis qu'on ne le nourrit pas, on ne fait pas les consignes, il pourrait arriver qu'il mette une bouchée dans sa bouche, puis qu'il s'étouffe avec. Mais je dis n'importe quoi, là. Ben ça, c'est pas respecter la personne telle qu'elle est là, dans sa condition. Autonome, libre, fier. Sa dignité demande que je l'assiste à ce point-là de son existence. Si je ne l'assiste pas, je l'expose à la mort. Je peux aller jusque-là. Autonome, libre, fier, fécond. T'apportes quelque chose d'unique au monde, même si tu es handicapé. T'apportes quelque chose au monde. Ne serait-ce que la reconnaissance que c'est mieux quand on peut marcher, quand on peut voir, quand on peut entendre, quand on peut être autonome. C'est mieux. Mais quand on n'a pas ce mieux-là, on peut être fier et rendre grâce à Dieu de pouvoir voir, entendre, marcher, bien faire les choses. On peut se réjouir de ça. Autonome, libre, fier, fécond, heureux. Pas heureux parce que tout est parfait, mais je suis capable de vivre avec. Puis il y a plusieurs personnes handicapées dans la communauté de foi et partage qui sont capables de vivre avec. J'ai une ancienne étudiante d'Agapé que vous connaissez probablement, qui chante, qui lit de la musique, qui anime le chant à l'église. Elle était une jeune d'Agapé. Puis, la première fois que j'ai fait un gros infarctus, là, il y a beaucoup de gens qui me disaient, on va prier pour toi, pour que le Seigneur te guérisse. Je reste avec elle dans la chapelle à la fin de la messe. J'ai pas envie de demander au Seigneur qu'il me guérisse. Faut que je vive avec ma maladie, c'est tout, qu'il m'apprenne à vivre avec. Puis elle me répond, moi non plus! Moi non plus, je ne veux pas guérir de ma cécité. J'ai appris à vivre avec. Je suis correct de même, là. Je ne veux pas guérir de ma cécité. Je suis aveugle. C'est correct. Je vis avec. On est capable de vivre en harmonie et d'être heureux de même. Mais évidemment, ceux qui nous voient dire, oh, on va prier pour que tu guérisses. Bon, c'est gentil de prier, là. Mais on apprend à vivre avec, on est en harmonie. Autonome, libre, fier, fécond, heureux, saint, parce qu'on appartient à Dieu, pas parce qu'on l'a mérité, parce que c'est lui qui veut qu'on vive avec lui. Et délivré de tout mal. Rendre service, c'est aussi délivré de tout mal. Délivré de tout esclavage. Tu n'appartiens pas aux bêtises que tu as faites, tu n'appartiens pas au mal qu'on t'a fait. Et t'appartiens pas aux faiblesses de la nature, aux infirmités, à la maladie, à la mort. Tu appartiens au Christ qui s'est livré pour toi. Et cette délivrance-là, ça fait partie de l'amour. Si j'étais marié, si j'avais des enfants, Mes enfants pourraient faire des bêtises, ma femme pourrait faire des bêtises, je ne l'enfermerai pas dans les bêtises qu'elle aurait faites, j'enfermerai pas mes enfants dans des bêtises qu'ils ont faites. Puis vous connaissez probablement des parents, comme j'en connais, qui ont un enfant qui est en prison pour des bêtises, des crimes qu'il a commis, et des parents qui disent « J'haïs ton crime, mais toi, t'es toujours mon enfant. T'es mon bébé, même si ça fait du mal. T'appartiens pas à tes crimes. T'appartiens pas non plus au mal qu'on t'a fait, qu'on touche à ça beaucoup ces années-ci. Là. Me too! » Des gens qui ont été violentés, abusés dans leur enfance, négligés dans leur enfance, ou placés dans des centres jeunesse, on en parle ces heures-ci, là, parce qu'il y a des témoignages de la commission, comment ça s'appelle déjà, madame?
Laura.
Oui, Laurent, madame Laurent, oui. Alors, t'appartiens pas au mal qu'on t'a fait, le mal que les Autochtones ont pu connaître, t'appartiens pas au mal qu'on t'a fait, t'appartiens au Christ qui s'est livré pour toi. T'appartiens pas aux faiblesses de la nature, aux infirmités. Et c'est là que je retrouve mes collègues de l'université qui sont incroyants, qui ont justement servi au progrès de la science, à tous ceux qui travaillent dans une institution comme celle-ci, pour délivrer le plus possible des conditions de l'infirmité. T'appartiens pas au mal qu'on t'a fait, t'appartiens pas à tes infirmités, à tes faiblesses. Et je vais collaborer à signifier la délivrance que Dieu t'accorde. C'est comme ça qu'on rend service. Puis je parle plus.